Tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, le bilan de l'attaque survenue sur l'axe Arbinda-Gorgadji s'est alourdi. On dénombre à ce jour 65 civils tués. Au Mali, 11 militaires ont été tués et 10 autres blessés hier dans une embuscade dans le centre du pays, ont annoncé les forces armées maliennes. En Côte d'Ivoire, la communauté burkinabé dénonce une lenteur dans le traitement de leurs documents administratifs et des cas de racket au consulat du Burkina. À la une également, l'édito de ce vendredi où un Louis Houlan se prononce sur le regain des activités des groupes terroristes, singulièrement dans les parties est et nord du Burkina. Et puis nous parlerons de la suspension des dossiers de promotion immobilière avec l'APIB, association des sociétés immobilières du Burkina, qui préconise une assise nationale sur le foncier avant toute modification des textes. Seydou Boro, le secrétaire général de l'APIB, est notre invité du jour. Le Burkina entame ce vendredi son deuxième jour de deuil national après l'attaque survenue sur l'axe Gorgadji-Arbinda. Aujourd'hui, le bilan s'est alourdi. 65 civils ont trouvé la mort dans l'attaque perpétrée mercredi contre un convoi mixte qui a fait aussi 14 morts au sein des forces de défense et de sécurité, a annoncé hier le gouvernement dans un communiqué. Avec ce bilan révisé, l'attaque a fait au total 79 victimes. Les FDS et les VDP ont permis de neutraliser 58 terroristes selon un décompte final, a écrit le gouvernement dans un communiqué jeudi soir. Et comment Arbinda s'est réveillé au lendemain de cette terrible attaque? Bernabé Cabré a joint un habitant de la localité. Écoutez son témoignage.
Dites-nous comment vous avez accueilli la nouvelle de l'attaque d'hier.
Nous, on a pris ça comme ça. Les gens sont sortis, puisqu'ils voient les forces de l'ordre qui partent vers Goury. Maintenant, on entendait, on disait qu'il y a un convoi qu'on a attaqué sur la voie de Gorgadji-Arbinda. Voici comment nous, on a appris la nouvelle.
Alors, vous confirmez que toutes les victimes sont de Arbinda?
Ça, on ne peut pas le dire. Sinon, la majeure partie, c'est Arbinda.
Et comment est-ce que Arbinda s'est réveillé ce matin?
De façon très bizarre. Les gens étaient cagés chez eux, il n'y avait pas de mouvement, les gens sont mécontents, les activités commerciales ne sont pas ouvertes.
Et actuellement, est-ce que vous voyez des forces de défense et de sécurité signaler dans la zone? Est-ce que vous vous sentez en sécurité actuellement?
Dans la ville, il y en a. Mais est-ce qu'au niveau des alentours, c'est ça, je ne sais pas. Si la voie Arbinda-Gorgadji, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas.
Un habitant de Arbinda, joint au téléphone par Bernabé Cabré, et cette énième attaque a plongé les Burkinabés dans le désarroi. Il faut prendre des mesures fortes, ont-ils dit au micro de Elisabeth Yanogo et Jacob Compaoré.
Personnellement, je pense que le problème n'est pas ministériel, il n'est pas militaire. Il est beaucoup plus profond que ça. Donc, où est-ce que les touristes arrivent à recruter les gens? Il y a d'abord ça, ils arrivent à recruter au milieu des jeunes. Parce que quand on regarde le moyen d'âge de ces éléments-là, c'est des jeunes. Ils font face au chômage. Il faut résoudre ce problème de chômage. Il faut résoudre le problème des mines, la redistribution des ressources minières. Donc, moi, je pense que le problème, il est beaucoup plus économique, beaucoup plus social que militaire ou politique.
Le problème, là, c'est de ne pas laisser quand ils vont venir nous attaquer, avant d'aller prendre des mesures. Le problème, là, en tout cas, ça reste beaucoup à faire. Donc sinon, en tout cas, la population n'est pas du tout contente. Surtout, nous avons remarqué que surtout Ceux qui sont au front, c'est les jeunes. Donc tout le temps, c'est les jeunes qui meurent en voulant défendre la patrie. Nous allons inviter les hauts cadres aussi à y participer au combat.
Bon, la population n'a qu'à se lever seulement pour que tout le monde on soit soudé, pour aider les forces de défense, puisque de plus en plus, ça va tous nous arriver ici. Si on se lève pas seulement, ça va jouer sur tout, nous tous quoi. Il a changé les ministres parce que les gens se sont levés. C'est pour ça qu'il a changé les ministres. Puisqu'il était là depuis là, il disait rien. On a tué les gens, eux tous ils sont calés. Ils disaient rien. Quand les gars se sont levés maintenant, il a commencé à changer les ministres. Lui-même, il a plus le ministre. Voilà. Ça, c'est pas une solution.
Écoutez, moi personnellement, en tant que citoyen burkinabé, je pense que le problème ici n'est pas le fait de changer un ministre ou quoi que ce soit. Le principal, le problème du tourisme, comme tous les Burkinabés, sans exception. Si le ministre actuellement a été changé, il faut que la population change leur position, leur façon de se comporter. Il faut que les masses populaires soient les premiers vecteurs du renseignement et de l'information pour contribuer à la sécurité du Burkina Faso.
Cette attaque-là a tellement duré il y a longtemps. Puisque quand on va regarder au niveau de la pauvreté, manque d'infrastructure, puisque si on regarde le pays comme ça, il y a d'autres qui, bon, leur commune là c'est bien construit. Par exemple, si on prend au niveau de l'ouest ou bien au centre-ville comme ça, c'est bien construit. Mais si on part au nord ou bien à l'est là, on voit que ça ne va pas. Il n'y a pas des infrastructures. Quand tu vas voyager, même si c'est 30 km là, tu vas faire 3 heures. Donc ça crée des problèmes. Je ne peux pas dire que le remaniement n'est pas bon, c'est bon. Le système qu'on va faire pour que le terrorisme finisse dans notre pays seulement, c'est ça qu'on souhaite. Voilà, on ne doit pas se décourager. On peut avoir une solution pour combattre cette fléau.
À l'instant, des réactions de Burkinabé sur l'attaque survenue mercredi. Le Burkina Faso à nouveau face au défi de l'insécurité. Alors que la situation semblait sous contrôle, on assiste depuis ces 3 dernières semaines à un regain des activités des groupes terroristes, singulièrement dans les parties est et nord du pays. Une alerte qui devrait inquiéter les Burkinabés. Voici notre éditorial. Il est signé Ouzin Louis Oulan.
Un convoi de l'armée pris dans le piège de groupes armés qui ont mis le doigt sur la gâchette, c'est un pied de nez à nos forces de défense et de sécurité. Énième attaque contre nos troupes, surprise, encore dans une embuscade. Technique bien connue et enseignée dans l'initiation de base de tout militaire. Le deuil, il est décrété. Nous pleurons et pleurerons encore, car l'assèchement de nos larmes ne semble pas être pour tout de suite. L'espoir, seul recours psychologique qui nous dope et nous garde encore assis, mais peut rassurer tout de même. L'attaque sur l'axe Gourgadji-Arbinda renforce le sentiment général que les renseignements sont le nœud gordien du système sécuritaire burkinabé qui manque de capacité d'anticipation pour faire foirer les plans de la partie d'en face. C'est un cri de cœur et une alerte grave qui demande un sursaut d'orgueil de nos garçons qui, du reste, ne sont pas des novices en la matière. Si tant est que les armes sont leur métier, on est franchement en droit de se demander, de se questionner sur les causes de ces multiples déconvenues de nos militaires. Avant le départ d'une patrouille, qu'est-ce qui est fait en matière d'information? Les commandants de troupes, au front, s'entourent-ils de précautions avant de les lancer sur les routes? Pourquoi? Est-ce que ce sont nos éléments qui sont piégés et non le contraire? Améliorer le renseignement, changer le fusil d'épaule est un impératif de survie devant la montée de l'adversaire, un adversaire pas forcément plus armé et mieux entraîné, encore mieux plus équipé que les nôtres. Avec le procès médiatisé des terroristes engagés depuis mi-août, il faut être naïf pour croire que le front resterait tranquille. L'annonce du procès du capitaine Thomas Sankara pour le mois d'octobre aurait-elle aussi un impact sur la montée des attaques pour explorer la piste de ceux qui croient au complot politique? En tout état de cause, le gouvernement burkinabé doit répondre aux attentes de sa population, s'assumer, assurer et réassurer les Burkinabés qu'il n'y a pas péril en la matière et que la situation est sous contrôle. Les efforts de guerre doivent être collectifs, la collaboration active des civils pour les renseignements des populations oisives dans les bases et dancing de certaines grandes villes du Burkina, alors que le pays est en guerre et à l'opposé, quelques braves civils enrôlés comme volontaires, guerriers sans expérience, servant quasiment de chair à canon. Combien cette guerre coûte aux contribuables burkinabés? L'effort de guerre a un coût et se taire et faire comme si tout était rose est un choix dangereux. Il faut une claire définition de la politique qui est mise en place pour défendre la patrie. Expliquer les enjeux au peuple pour un sursaut d'orgueil bien coordonné, sinon, à petits pas, nous risquons le scénario à l'Afghanistan.
Après l'éditorial de Wizin Lui Oulon, conflit foncier à présent, nous prenons la direction de Rumtenga dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou où un terrain d'une cinquantaine d'hectares oppose des propriétaires terriens à une agence immobilière. Hier, lors d'une conférence de presse, des propriétaires terriens ont dénoncé une tentative de spoliation de leurs terres par une agence immobilière de la place qui aurait mal acquis le terrain, autrement dit qui a acquis le terrain auprès de supposés vendeurs qui ne sont pas en réalité propriétaire des lieux. Abdelkader Konaté.
La saga des conflits fonciers se poursuit. Cette fois-ci, c'est un domaine de 50 hectares qui serait la cause de nombreuses jérémiades ici à Rumtenga. Alors qu'il était en aventure en Côte d'Ivoire, Moussa Sondo décide en 2017 de rentrer au Bercail. Grande fut sa surprise quand il constate que le domaine de ses défunts parents a été vendu par des personnes à qui la terre avait été temporairement confiée pour exploitation agricole. Bernard Sondo, fils du propriétaire terrien.
Quand il a voulu exploiter maintenant, le problème est venu. Disons, il a fait son mur, ils sont venus saccager. Et quelques jours après, on constate qu'ils étaient en train de borner maintenant le terrain, de faire des parcelles. On est allé à l'information et il se trouvait que c'est une société immobilière qui était en train de lotir la zone. Donc, ils ont appelé les enfants des vieux qu'on avait attribués. Ils sont venus, ils ont reconnu que ce n'est pas leur propriété, mais ils ont vendu une partie à la société immobilière et l'autre partie à des particuliers.
L'affaire est certes en justice, mais Moussa Sondo dénonce un abus orchestré par l'agence immobilière en question qui tient mordicus à exploiter le domaine.
J'ai mis 4 plaques sur le terrain. Ils ont arraché les 3 plaques et détruit mon mur pour implanter leurs bornes. Quand nous avons déterré les bornes, ils ont envoyé les collègues venir m'arrêter, juste après que je sois libéré. C'est la police qui m'interpelle et j'ai été gardé là-bas pendant 3 jours, sous prétexte que j'ai déterré des bornes. Et ce, malgré que les témoins aient confirmé que le domaine m'appartient.
Les plaignants appellent donc les autorités à se pencher sur cette affaire qui dure depuis 4 ans afin qu'une suite heureuse soit trouvée.
Tout autre sujet désormais, les relevés des compteurs de l'ONEA se feront une fois tous les 2 mois et la consommation mensuelle sera calculée en divisant le volume relevé par 2. C'est la nouvelle facturation révisée de l'Office national de l'eau appliquée depuis juin dernier. Les responsables de l'ONEA ont rencontré la coalition contre la vie chère et l'union d'action syndicale à Koudougou les 19 et 20 août dernier pour le leur expliquer. Compte rendu Sabuna Ouidraogo.
Déjà en avril, l'ONEA a rencontré l'administration publique, la Ligue des consommateurs du Burkina, des organisations de la société civile, des personnes ressources et des consommateurs pour des discussions qui ont abouti à la réforme de la facturation afin d'améliorer le système qui était dénoncé. Aux yeux de l'ONEA, la nouvelle formule a besoin d'être expliquée aux participants.
Nous sommes là pour présenter à ces acteurs ce que nous faisons dans ce nouveau système de relevé bimestriel.
Adama Sawadogo, inspecteur général de l'ONEA.
C'est pour faire comprendre comment nous procédons, comment nous facturons pour éviter tout ce que nous avons connu par le passé.
Selon Kizito Dakio, représentant de la coalition contre la vie chère, même avec cette nouvelle approche, des clients de l'ONEA ne se retrouvent toujours pas.
Depuis que effectivement cela a été appliqué, les gens sont un peu perdus dans la facturation. Ils prennent 2 factures, ils regardent, ils ne savent pas exactement comment les calculs ont été faits.
La CCVC déplore également les retards dans la remise des factures. Elle appelle l'ONEA à baisser le coût de l'eau et à améliorer son système d'adduction d'eau potable tout en travaillant à mettre fin à la pénurie de l'or blanc. Sabuna Ouidraogo, Koudougou, Radio Omega.
Direction la Côte d'Ivoire où la communauté burkinabé dénonce une lenteur dans le traitement de leurs documents administratifs. Mauvais accueil, longue file d'attente, racket pour ne citer que ces problèmes auxquels ils font face au consulat du Burkina. Écoutez le témoignage de cette dame qui a tenu à garder l'anonymat. Elle est au micro de Aïna Tiemtori.
Ça paraît incroyable. Mais lorsque nous arrivons au niveau du consulat du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, nous, Burkinabés, nous sommes vraiment maltraités. Je ne vais pas mâcher mes mots. Nous sommes vraiment maltraités. Et c'est tellement incroyable. Nous réalisons que nous sommes mieux reçus dans les bureaux ivoiriens en Côte d'Ivoire que dans notre propre ambassade. Ce qui fait que nous n'avons même pas envie de mettre le pied au niveau du consulat, sauf en cas d'extrême nécessité. Ça commence déjà même à l'entrée principale avec les vigiles qui veulent vous escroquer en vous demandant, par exemple, de leur donner une somme de 3 000 francs ou 5 000 francs pour qu'ils accélèrent la procédure, pour que vous puissiez avoir, peut-être en 2 semaines au lieu de 3, votre carte consulaire. Alors, le chemin faisant, on arrive au niveau de la, je vais pas dire de la salle d'attente parce qu'il y en a pas. Nous attendons sous des tentes dehors, quelles que soient les intempéries. Et là, il y a je ne sais pas si les gardiens, le gardien ou l'agent de bureau en tout cas, qui traite les personnes assises, franchement, de façon incroyable. Et nous sommes, le système est fait de sorte à ce que nous, en fait, on se retrouve comme des prisonniers, en fait, on est traités comme des prisonniers.
L'invité de la rédaction.
Avant l'invité, un mot de l'actualité internationale. Au Mali, une embuscade tendue hier jeudi dans le centre du pays a tué 11 militaires et blessé 10 autres, dont 9 sont dans un état critique, ont annoncé les forces armées maliennes. Selon le communiqué des FAMA, il était 12h45 lorsqu'un véhicule piégé a d'abord explosé au passage du convoi suivi de tirs intenses. Et en Afghanistan, environ 7000 personnes ont été évacuées par l'armée américaine depuis le 14 août. A indiqué hier jeudi un haut responsable du Pentagone. Suspension des dossiers de promotion immobilière. On en parle avec l'APIB, l'Association des sociétés immobilières du Burkina, qui préconise une assise nationale sur le foncier avant toute modification des textes. Seydou Boro, le secrétaire général de l'APIB, est notre invité du jour. Il répond aux questions de Moumouni Yaro.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Yaro.
Sur instruction du Premier ministre, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a entrepris une relecture des textes régissant le secteur du foncier et partant de là, la promotion immobilière. Une chose à laquelle vous vous opposez. Pourquoi?
On ne peut pas s'opposer au projet de modification de loi de notre gouvernement, mais nous avons dit au ministère de tisser largement pour que tous les acteurs puissent participer et donner leur point de vue pour pouvoir, en tout cas, nous faire sortir du trou que nous sommes aujourd'hui.
Le trou dont vous parlez, est-ce que vous n'êtes pas quelque part responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui?
Et nous tous, on a failli. L'État, nous, tout le monde a failli. Tous les acteurs du foncier au Burkina, tout le monde a failli. Tout le monde doit accepter sa responsabilité. Le ministère nous a donné un TDR à un week-end pour aller étudier l'avant-projet de loi à Manga. Nous avons assisté durant toute la semaine. Et nous avons relevé certains défis.
Là, vous parlez de l'atelier qui devait se tenir du 31 mai au 5 juin dernier sur la relecture de la réforme sur la loi 057-2018.
Oui, bien sûr. Et nous avons donné certains points qui n'est pas normal. Et les participants ont dit que non, ils vont revenir voir leur ministère. Et ce qu'il y a seulement, ils vont nous faire part. Le temps de nous faire part, nous, on nous est convoqués encore de venir sur la validation des projets de loi en question, sans même tenir compte de tout ce que nous avons dit. Donc, nous, on ne va plus participer à cette projet de loi de validation, parce que tu vas venir, on te montre à la nation, et tes paroles ne sont pas comptées. Donc, c'est là, nous avons dit, non, bon, ils peuvent aller valider. Nous, on n'est pas contraints à ce que l'État ne modifie pas ses lois, mais ce que nous avons demandé à l'État, c'est de tenir compte de ce que nous avons acquis.
De façon claire, de quoi vous parlez quand vous parlez d'acquis?
Pour avoir une délibération d'abord, tu pars dans un village, soit tu pars payer, soit tu t'entends avec les propriétaires terriens, bien sûr avec l'accord de tout le monde. Aucun immobilier n'est là au Burkina pour forcer un propriétaire terrien pour prendre sa terre. L'association Nakorolwa Zanga a eu à faire des conférences de presse pour dire qu'ils sont avec les propriétaires immobiliers. On est parti dans les mairies, on a fait les délibérations. À partir de ces délibérations maintenant, nous avons fait les dossiers techniques pour déposer au ministère. Il y a des dossiers qui ne sont pas déposés, mais il y a plusieurs dossiers qui sont déposés. Nous avons dit à ce moment qu'une mesure transitoire pour accompagner ces dossiers, si après cela l'État veut modifier ses lois, il n'a qu'à modifier. Si tu peux travailler dedans, tu restes. Si tu ne peux pas travailler dedans, tu te cherches.
Justement, sur ce point, l'État pense à un accaparement des terres. Beaucoup se pensent à votre profit et non du social que vous faites.
Si on veut classer l'accaparement des terres, l'agro-businessman vient en première position. Les tierces personnes qui ont payé viennent en deuxième position. Les catholiques viennent en troisième position. Les promoteurs immobiliers viennent en quatrième position. En quoi maintenant vous pouvez prendre poser sur les promoteurs immobiliers? Mais moi, je crois qu'il faut dire la vérité à la nation. Un peu partout, s'appuie, dédoue, quoi. On a vu les députés, les ministres, tout le monde a payé. Mais pour eux, ce n'est pas un problème. Un promoteur immobilier, tu payes 2 hectares seulement pour faire de la production immobilière. Pour toi, c'est un problème. Alors que d'autres personnes ont payé, on met des grillages. Poser, ça ne sert à personne. Et c'est ça qui est normal. Ils n'ont qu'à brûler l'enquête parlementaire. L'enquête parlementaire a prouvé que les réserves, les coca-là, ont été morcelées par l'État même pour vendre. Vous avez vu les résultats, comme c'est le cas, tout ce n'est pas un promoteur immobilier. Si ça, c'était un promoteur immobilier, ça allait créer des gaffes. Et il y a un site sur la route de Saponais, là. Là-bas aussi, il y a eu les mêmes problèmes. Mais ce n'est pas un promoteur immobilier. Un promoteur immobilier ne peut jamais forcer quelqu'un. Un promoteur immobilier s'entend toujours avec les promoteurs terriens pour engager quoi que ce soit. Dans nos sites aussi, il y a des gars qui ont les titres, qui ont tout. Nous, on fait tout pour s'entendre avec la personne, même s'il faut les rembourser, pour en tout cas avoir une entente correcte avant de pouvoir faire quoi que ce soit.
Quelle est la solution que vous proposez aujourd'hui alors?
Nous avons tout proposé à l'État. J'étais en Côte d'Ivoire, on m'a décerné des trophées. Le ministère m'accompagne, les banques m'accompagnent. Donc je ne vois pas pourquoi dans mon pays, je ne vois pas avoir ces accompagnements et on ne veut pas qu'on parle. Ça, moi, je suis en train de construire 1000 logements pour la police, 200 logements pour l'ordre des médecins en Côte d'Ivoire. Tu vas dire à un fonctionnaire burkinabé de payer un bâtiment à 30 millions même, ça, il ne peut pas. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, ça se réalise. Mais ce que je pouvais demander au gouvernement d'ici là, c'est d'accompagner nos fonctionnaires à l'autoconstruction. Les accompagner à un premier temps de prendre les parcelles vides, et à un deuxième temps, nous dire, nous les promoteurs, on veut que vous les accompagnez avec ce type de maison à ce prix à ne pas dépasser. Dans nos aménagements, on laisse tout au profit du gouvernement. Si vous voulez construire des gendarmes ou du commissariat, nous on laisse des grandes superficies pour ça, les écoles pour nous on laisse des grandes superficies. On nous a dit de construire 30% dans nos aménagements. Mais ils n'ont jamais signé nos approbations. Si tu construis, on dit que c'est illégal parce qu'ils ne t'ont pas donné approbation. Tu ne construis pas aussi, ils sont en train de dire aux gens que tu ne construis pas. C'est le privé, l'État veut retirer aujourd'hui à leur profit. Moi, je crois que le ministère doit organiser une assise nationale sur le foncier, auquel tous les participants doivent assister. Le ministère, les promoteurs immobiliers, les chefs de terre, les chefs coutumiers, les conseillers municipaux, les géomètres, les urbanistes, les catholiques, tous les partis prenants là, dans le foncier, assistent. Donner leur point de vue et à base de cela là, qu'on puisse modifier ce projet de loi. Si on fait cela, le Burkina pouvait s'entendre. Mais avec la rapidité qu'ils sont en train de partir, moi je sais que de l'avant ça ne va pas donner. Mais comme ils ont la force aujourd'hui, peut-être qu'ils peuvent faire. Même si tu as la force, il faut vraiment avoir le pardon. Vraiment, on les demande pardon. Nous demandons vraiment à ces gouvernants là de nous écouter, qu'ensemble là, on va sortir le Burkina dans le trou.
Merci.
Merci Monsieur Yaro.
C'était Seydou Boro, le secrétaire général de l'APIB, l'Association des sociétés immobilières du Burkina. Notre invité à l'instant, c'est avec lui que prend fin ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.
Radio Omega, l'info en direct.
Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous renouveler.